présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Comme sa compagne n'est pas égoïste, elle lui fait ce qu'elle lui a fait. Une fois qu'elles ont joui toutes les deux, qu'elles sont assouvies, elles restent enlacées. Hélène lui demande « Comment tu sais tout ça ?» Juliette lui répond « D'instinct. » Hélène lui dit « Mais qui t'a réveillé ce que tu es ?» Elle lui dit « J'étais très jeune, 12 ans à peu près, et j'ai vu un film, jeune fille en uniforme. Ce film a été une révélation pour moi. J'ai tout de suite compris que j'étais comme cette jeune fille. » Je suis tombée amoureuse, comme Romy Schneider, d'une jeune femme de mon immeuble. Mais j'étais trop timide pour le lui dire. Je faisais tout pour être près d'elle et lui rendre service. Ni elle ni ma famille n'a jamais rien su. On pensait que j'aimais bien cette femme parce qu'elle était très féminine et coquette et que je voulais l'imiter comme les petites filles peuvent jouer à la grande. Je Je me suis fait câliner par elle pendant des heures. Puis la femme est partie. J'en ai beaucoup souffert. Et j'ai vu d'autres femmes. Mes amours pour ces femmes étaient plus ou moins platoniques, à part les caresses et les baisers. Mais un jour, j'ai vu le film Don Juan 73 avec Brigitte Bardot. Là, je l'ai vue dans un lit avec une autre femme nue et cherchant à vouloir faire des choses, j'ai compris qu'on pouvait faire plus. En grandissant, j'ai compris ce que l'on pouvait faire. Et elle lui dit « Tu es ma première expérience de ce genre. Et je dois avouer, c'est que ça m'a plutôt plu. J'ai préféré ça aux hommes. Tu es plus douce. Tu ne fais pas mal et l'on ne risque rien. » Elle reste un moment lancée. Puis la jeune fille lui dit « Ça fait tard. Je dois rentrer. Ma mère doit être dans tous ses états. Elle doit penser que je suis avec un garçon. » Et elle lui demande « Et si elle sait que c'est une femme ?» Juliette lui dit « Je suis sûre qu'elle ne peut même pas y penser. Les choses du sexe, c'est inconnu pour elle. Elle ne comprendrait même pas. » Juliette se dégage de l'étreinte d'Hélène et se lève. Hélène aussi. Juliette lui dit « J'ai pas le temps de me laver. » Elle s'habille en prenant ses vêtements qui sont à terre. Une fois qu'elle est habillée, Hélène la raccompagne jusqu'à la sortie. Avant qu'elle ne sorte, Juliette lui demande « Nous reverrons ?» Hélène lui dit, pour ne pas la froisser, parce qu'elle ne sait pas encore « Oui, bien sûr. » Juliette sort de son sac une carte de visite. « Tiens, c'est chez mes parents, mais tu n'as qu'à leur dire que tu es une de mes professeurs d'université. » « C'était très bien. » Hélène lui dit « Oui. » Elles s'embrassent toutes les deux sur les joues. Et Juliette sort de l'appartement. Hélène retourne dans sa chambre. Elle ne sait plus où elle en est. Doit-elle avoir honte de ce qu'elle a fait ? Ou être satisfaite. Elle enlève les draps pour les changer et se coucher. Les jours passent. Elle n'a pas téléphoné à Juliette, car elle veut savoir où elle en est. Au fil du temps, elle envoie son donneur de lui faire changer de vie, de genre. Sa nouvelle vie lui plaît, mais elle lui a été trop imposée. Elle a de plus en plus des envies de vivre comme un garçon. Elle aime le sport, les plats épicés et forts, le sucre, les boissons genre bière. Aime s'habiller décontracté, n'aime plus se maquiller, marche les jambes écartées, les bras ballants. Et la chose la plus ennuyeuse pour elle, c'est cette attirance qu'elle a pour les autres femmes, ou plutôt les jeunes filles, les très jeunes, blondes, de taille moyenne, minces, avec de belles poitrines. Elle a envie de toucher ces poitrines bien en pointe. Son désir l'énerve. Elle se met à s'énerver après son donneur et lui dit
« Laisse-moi en paix. Ne prends pas toute la place. Il ne me reste rien. Il ne me reste rien de ce que j'étais. »
Les jours passent. La nuit, elle rêve de plus en plus à un jeune homme, toujours le même, de taille moyenne, bien fait, avec un beau visage d'ange, de magnifiques yeux bleus, des lèvres pour embrasser, un sourire éclatant, une abondante chevelure châtain clair qui ondule un peu. Dans un de ses rêves, il lui sourit, lui tend la main, marche les mains dans les poches, habillée d'un blouson vert pâle en plastique et d'un pantalon velours marine. Souvent, elle entend une personne dire « Fred ! Fred ! » Le jeune homme tourne la tête vers la voix. Elle se dit que ce doit être son nom. Dans un autre rêve, elle prend le car pour Oulin, et là, elle va au cimetière et s'arrête devant une tombe. Frédéric Thomas. Elle se dit que ce doit être le nom de son donneur, mais elle n'ose pas, pour le moment, aller vérifier à Oulin. Elle est invitée à une soirée par les Pontois. Le fils organise une soirée pour présenter ses nouveaux produits. Biotech, diététique, forme Pontois de luxe. Il a invité parce qu'elle a eu une opération à un nouveau corps. Pour la pub, ce serait bien qu'elle se fasse inscrire au club Pontois Forme. La fête se déroule comme du temps de sa mère. D'ailleurs, c'est le majordome qui s'est occupé de tout et qui était au service de sa mère. On a invité toutes les personnalités de la ville, le préfet, le maire, les artistes, les journalistes, comme Pierre-Max Roussillon qui est venu avec son inséparable Mathieu Prodoric. Il y a aussi les hôtes-bords, père, mère, fils, fille, les diapes en entier, sauf Galien qui est resté à Paris, les Jean de Perdry, les Condorcet, Frédéric Lefort, etc., etc. Ils sont en tout 600. Un orchestre, un buffet qui a des produits diététiques, biotech, pontois de luxe, avec du champagne bien entendu, et quelques amuse-gueules en caviar. La soirée bat son plein, Lucien et Pascal reçoivent les invités. Plus personne ne trouve à redire à ce couple d'hommes. On dit tout simplement, Lucien et Pascal, des gens charmants, voilà tout. Comme cela fait des années qu'ils sont ensemble, voilà tout. Tout Lyon les a acceptés. On a oublié ce qu'était Pascal. D'ailleurs, pourquoi lui en vouloir, puisque beaucoup de femmes du monde ont été ce qu'il a été, et même de très grandes femmes du monde. Madame d'Aubord est aux anges. Elle porte une robe blanche avec des perles d'argent piquées dessus. Elle dit à Lucien, « Cela me rappelle les soirées de votre mère. Vous devriez en faire plus souvent. Qu'est-ce qu'on a pu s'amuser, votre mère et moi ?» Charles lui dit, « C'est vraiment très bien. J'aurais beaucoup aimé que nous nous voyions un peu plus souvent. Malheureusement, mon père m'a demandé d'aller à l'ambassade de Hongrie, un pays perdu au fond de l'Europe. Que vais-je faire au milieu de ces paysans ? Tandis qu'ici, c'est le centre de la civilisation, » Lucien lui dit. « Oui, avec 10 millions de chômeurs et des gens qui meurent de faim. Oh, rien ne marche !» Lucien lui répond. « Mais non, mon cher, regardez ce soir. On n'a qu'à faire des soirées comme celle-là et tout ira bien. » Lucien voit arriver Philippe. Il le trouve très beau. Charles voit qu'il le regarde et lui dit « Vous aussi, mais malheureusement, il est déjà pris. Et il est déjà pris par une personne depuis la maternelle. » Lucien lui demande « Par qui ?» Charles aux épaules lui dit « Tout Lyon le sait, sauf les parents, bien sûr. » « Par son cousin Galien, sa fortune est faite. » Et il doit le savoir, car il ne fait rien, rigoureusement rien. Il se préserve pour son cousin. C'est touchant, n'est-ce pas ? Mais triste pour les autres. Il est tellement bien. Et comment va Pascal ? Très bien. D'ailleurs, il est là-bas. Si vous voulez aller lui dire bon petit bonjour, oui, j'y vais. Et il s'éloigne. Lucien a perdu de vue Philippe. Il voit arriver une femme en robe du soir longue et rouge, très moulante, et d'une grâce et d'une élégance. Il va vers elle et lui dit, « Mademoiselle, je suis le maître de maison. » Elle lui dit, « Ah, Lucien Pontois, moi, je suis Hélène. » Il lui dit, « Hélène, ah ?» Elle lui dit, « Oui, la personne que vous avez invitée à cause de ma grève du corps. Ah oui, excusez-moi, j'avais tellement de personnes. » Elle lui dit, « Vous êtes tout excusé. » Il lui dit, « Vous semblez en pleine forme. » « Oui, merci. Ça s'est bien passé. » Dans l'ensemble, oui. « Ah, pourquoi dans l'ensemble ?» Elle lui dit, « Eh bien, c'est un peu bizarre à dire. » Il lui dit, « Allons nous asseoir. J'adore les histoires étranges. J'adore l'émotion. J'adore l'émission L'écran radiophonique. » Lorsqu'il raconte ses histoires étranges, « Pas vous ?» elle lui dit. Elle lui dit, « Je n'écoute jamais la radio, je lis beaucoup. » Il l'amène dans un coin du salon, plus calme, la fait asseoir dans un fauteuil. « Vous voulez boire quelque chose ?» elle lui dit. « Vous avez du champagne ? Moi, j'aime mieux la bière. » Il est surpris. « La bière ? Oui. » Il fait signe à un serveur qui présente des coupes de champagne, en prend deux et en tend une à Hélène, puis s'assoit à côté d'elle. Elle lui dit, « Oui, depuis mon opération, j'adore la bière. Racontez-moi tout ça. » Elle lui dit, « Eh bien voilà,
l'on m'a mis un nouveau corps. Et ce corps, le corps du donneur, est le corps d'un tout jeune homme. Je l'ai appris par une infirmière. Chose étrange, ce nouveau corps change mes personnalités et mes goûts. Je deviens plus viril, moins féminine. J'aime le sport, m'habiller, décontracter. Je n'aime plus me maquiller, mange des choses fortes et bois de la bière, etc. Remarquez, ces choses-là ne sont pas très importantes, mais il y a une chose qui l'est plus et qui malheureusement me gêne énormément. Du point de vue affectif, si vous voyez, ça a changé aussi. Et cela me crée de très graves problèmes, Lucien lui dit. Je croyais que ce genre de choses ne pouvait pas se faire. C'était impossible. Car en fait, le corps est un corps, enfin un organe, rien de plus, elle lui dit. Moi aussi, je pensais comme vous. Mais malheureusement, il lui demande. Et qu'allez-vous faire? Elle lui répond. Je ne m'en vais tout de même pas, encore une fois, changer de corps. Je dois m'adapter. Il lui dit. Ça ne doit pas être facile, elle lui dit. J'ai déjà fait un essai. C'est agréable. Mais maintenant, je me demande si je peux encore, comme avant. Lucien lui dit. Faites un essai. Il y a du monde ce soir. Elle lui dit. Essayons ensemble. Il lui dit. Non, malheureusement, c'est impossible. Je suis de l'autre bord. Mais ce n'est pas un changement d'organe. C'est pas dû à un changement d'organe. En tout cas, je ne le sais pas. Elle lui dit. Tant pis. Il me semblait être très gentil. Merci. Mais par contre, nous pouvons faire quelque chose ensemble. C'est d'être membre d'honneur de l'association Forme Pontois Plus. Alors, gym, voyage, diététique, soins de beauté, et chaîne câblée, radio, avec votre carte d'adhérente, le tout pour presque rien. 20 000 la carte, plus 500 francs par mois. La carte renouvelable tous les 2 ans. Et vous avez 20% de remise sur tous nos produits, même les voyages. Bali, Vietnam, Amérique, etc. Et même un billet pour le premier voyage touristique sur la Lune. 50 chaînes de réseau câblé, numérique, 20 chaînes de radio. Elle lui dit. Cela me paraît intéressant. Je veux bien, il lui dit. Bien, venez me voir demain ici. Nous prendrons le thé et je vous donnerai la carte Club Pontois. Pascal vient vers Lucien et lui dit. Il faut que tu viennes. Que se passe-t-il? Il y a que Monseigneur Yoga est venu furieux parce que nous ne l'avons pas invité. Il n'est pas venu seul. Il y a une vingtaine de familles des cités et comme c'est le Ramadan, et c'est des musulmans. Et parce que Yoga préside le Ramadan. Lucien demande. Il est devenu musulman? Il dit qu'être catholique, c'est être de toutes les religions. Et que la musulmane est la plus près de Dieu. Et que fait-il? Il harangue les invités. Il leur dit qu'ils sont des impies de ne pas faire le Ramadan et de manger du cochon. Et que s'ils ne l'avaient pas invité à cette débauche, c'est parce que nous étions des fachos de droite. Les invités sont pétrifiés par cet homme habillé en chèque blanc et entouré d'une tribu. Lucien lui dit. Bien, j'y vais. Il se lève et dit à Hélène. Pardonnez-moi, mais je dois sortir mes invités des griffes d'un fou furieux. Ah oui. Je vous présente Pascal, mon ami. Elle dit. Enchantée. Et il la quitte. Elle reste assise seule. Comme elle a décidé, c'est de conquérir un homme et s'est féminisée le plus possible. Et cela lui va très bien. Elle reste un moment pensive à regarder la soirée. Elle n'a pas tellement envie de se fondre dans la foule. Au loin, elle voit Lucien discuter violemment avec un espèce d'huluberlu en blanc entouré d'une bande de va-nu-pieds. Vient vers elle un homme grand, mince, un peu maigre. Le visage osseux, petite moustache et cheveux châtains un peu grisonnants. Il porte des lunettes en métal doré et habillé d'un smoking. L'homme a un côté élégant vieille France.
tel qu'on en voyait dans les films des années 30, en noir et blanc. Il s'avance vers elle et lui demande « Puis-je m'asseoir à côté de vous ?»«
Oui, bien sûr, monsieur. »
Il s'assoit et lui dit « Je m'appelle monsieur de Janjou, Armand de Janjou. » Elle lui dit « Hélène. » Il lui dit « Je m'assois ici parce que la foule commence à me fatiguer. » Surtout qu'il y a cette altercation avec ce soi-disant prêtre, ce yoga. Vous n'aimez pas la foule, vous non plus ? Elle lui dit.
Non, je ne l'ai pas. Et j'ai l'habitude de solitude.
Il lui dit. Moi aussi. J'ai toujours vécu seul. Et avec très peu d'amis. À part Charles de Haute-Bord, que je connais depuis son plus jeune âge, je ne reçois pratiquement personne chez moi.
Elle lui dit. Moi, c'est à cause de mon opération.
Ah, oui. L'on m'a changé mon corps. Oh mon Dieu, est-ce que ça a été douloureux ? Elle lui répond.
Non, pas du tout. Mon corps, oui. Car il se passe des choses étranges. J'ai pris les goûts de mon donneur.
Il est surpris. Comment le savez-vous ?
Elle lui dit. C'est très simple. Comme c'est le corps d'un tout jeune homme et que moi je suis une femme, cela se voit de suite.
Il lui dit, c'est pas croyable. Et tous les goûts ?
Elle lui répond, malheureusement, oui.
Et vos goûts à vous ?
Pour le moment, je crois que je me les garde un peu.
Il lui dit, alors vous êtes deux ?
Et oui. Il le regarde bien et lui dit,
une jeune et belle femme comme vous, c'est incroyable.
Elle lui demande, vous me trouvez très belle ?
Oui, très belle. Pourtant, je ne suis pas très spécialiste là-dedans, mais je peux vous dire, c'est que vous êtes très belle.
Merci,
il lui demande. Votre maladie de corps ne vous empêche pas d'avoir des histoires de corps.
Elle lui répond, non, et j'en ai besoin.
Il lui dit, vous savez, je suis pas vraiment faire la cour. J'ai pas beaucoup de sujets de conversation, à part la grande musique, les livres rares, la peinture, tout ça, et un peu vieux jeu et même un peu suranné.
Elle lui dit, non, j'aime bien les belles choses.
Il lui dit, c'est vrai, vous êtes allé en Italie ?
Oui, et j'ai beaucoup aimé.
Il lui demande, plus les Italiens que les belles choses.
Elle lui dit, les Italiens ont de très belles choses, mais j'aime les deux.
Il lui dit, une belle femme qui aime les deux ne peut être qu'intelligente.
Il se lève et lui demande, si nous allions danser,
pourquoi pas ?
Elle se lève et elle le suit.
Il danse durant une bonne partie de la soirée. Elle le trouve charmant, intelligent et aussi bel homme. Ce n'est pas un jeune homme, mais c'est plus homme. Elle se dit qu'elle pourrait peut-être avec lui. Personne ne les dérange. Ils restent toute la soirée ensemble. Puis, il est l'heure de partir. Le sien dit au revoir et leur dit « La soirée a été épuisante. Merci d'être venu et bonne nuit. »
Enfin, pour ce qui en reste,
n'oubliez pas c'est de venir demain à 15h pour la cape d'adhérent.
Elle lui répond « Non, j'y manquerai pas. Bonne nuit. »
Monsieur de Janjou lui demande « Quelle cape d'adhérent ?»«
Celle du club femme pour toi. » Il lui dit
« Je vois, c'est pas pour moi. Trop tapageur. » Et il sort.
Il est 5 heures du matin. Il lui demande, tu vous raccompagnes ? Elle lui dit, je croyais que vous n'aviez pas de voiture.
Il lui dit, parce que je fais vieille France, mais j'ai une voiture. Je ne conduis pas, j'ai un chauffeur.
Elle lui dit, c'est étrange, vous faites penser à Proust.
Il l'amène jusqu'à sa voiture, qui est une vieille Rolls-Royce noire.
Le chauffeur debout ouvre la portière de la voiture.
Lui dit, c'est la voiture de Madame de Haute-Bord qu'il a achetée parce qu'elle en a une autre plus moderne. Nous devons nous arrêter.
Elle lui donne son adresse, qui la donne au chauffeur.
Ils se sont arrêtés, il lui dit « Voici arrivé ».
Elle lui dit
« Si vous voulez prendre un dernier verre chez moi, si vous n'êtes pas trop fatigué ?»
Il lui répond
« J'accepte, n'en est jamais fatigué pour une belle femme. »
Ils sortent de voiture, il lui demande
« Je demande à mon chauffeur de m'attendre où ?»
Elle lui dit
« Vous lui téléphonerez de venir vous prendre. »
Il dit à son chauffeur,
vous avez entendu ?
Oui, monsieur. Et la voiture s'est éloignée.
Et le fait rentrer dans son immeuble. Fait entrer chez elle.
Entrez.
Il entre.
Il lui dit, c'est charmant chez vous.
Merci. Mais j'aime de plus en plus ces espaces. Je crois que je vais vendre quelques meubles. Venez, allons au salon.
Entrez.
Asseyez-vous.
Il s'assoit dans le fauteuil qu'elle lui montre.
Je vous sers quoi ? Bourbon, champagne, cognac ?
Il lui dit. Je ne vois pas bien pour une boisson aussi matinale. Voyons, un bourbon.
Elle va chercher une bouteille. Et de verre. Dispose sur une table basse et sert. Puis elle s'assoit.
Depuis votre opération, c'est la première fois que vous recevez quelqu'un chez vous ?
Elle lui sourit et lui dit
« Non ».
Il lui dit « Pour passer un moment amoureux ».
Elle lui dit
« J'ai depuis... Mais c'était avec une jeune fille. Oui, je vous avais dit que j'avais pris les goûts de mon donneur. »
Il lui demande
« Ça s'est bien passé ?»
Elle lui dit « Oui, en fait, j'étais dans une position où je ne savais pas quoi faire. C'était la première fois, mais la jeune fille était très experte et m'a montré les gestes que je devais faire. J'ai tout de suite compris. Les gestes de l'amour sont très simples et se comprennent très vite. »
Il lui demande.
« Et cela vous a plu ?»
Il lui répond. « Plutôt, oui. Il n'y a pas vraiment de différence entre ce que l'on ressent. » Car la sensation reste la même, quel que soit le partenaire. La sensation du plaisir ne change pas et est mise en marche de la même façon. Baiser, toucher, etc.
Il lui demande, vous allez continuer à avoir de ces rapports ?
Elle lui dit, pourquoi pas ? En fait, je ne sais pas. Un homme est un homme. Il a son charme.
et ne peut être remplacé. » Il lui dit, « Vous avez parfaitement raison. Un homme ne peut être remplacé. Mais l'on peut essayer, n'est-ce pas ?» Elle lui dit, « Oui, pourquoi pas ?» Il lui dit, « Alors, si vous trouvez normal d'essayer, pourquoi ne pas trouver normal que je veuille essayer de vous aimer ? Je vous trouve très attirante. » Elle lui dit,
« Merci. Attirante physiquement ?»«
Tout ce que vous êtes. Et je dois avouer que votre double vous rend encore plus attirante. »
Elle lui dit, « Voyez-vous ça ?»
Il lui demande, « Cela vous fâche ?»«
Non. »
Elle s'étire et se lève et lui dit,
« Si vous le désirez, on peut aller dans ma chambre. »
Il pose son verre à terre et se lève.
Ils sortent du salon. Entrez.
Là, elle lui dit,
« Je ne veux pas que l'on l'allume. J'ai une cicatrice et je resterai en chemise. »
Il lui dit, « Cela m'est complètement égal. » Il la prend dans ses bras, l'embrasse sur les lèvres, puis se dégage et lui dégrave sa robe qui tombe à terre. Et il se déshabille. Elle s'allonge sur le lit. Elle attend. Il vient vers elle. Elle ferme les yeux pour ne pas entrevoir sa nudité. Il se penche et l'embrasse. Elle fait ce qu'il faut faire avec son aide, car il n'est pas très expert. Il lui demande, « Comment s'appelle votre donneur ?»«
Frédéric Thomas, je crois. » »«
Il était jeune ?»«
18, 20 ans. »«
Oh, Frédéric, mon Frédéric. » »«
Non, Hélène. » »«
Oui, Hélène, Hélène, Hélène. »
Plus tard, ils sont lancés dans le lit. Elle est heureuse, ça s'est bien passé. Monsieur de Janju est très gentil, mais un peu timide et dans la chose peu experte. Mais tant mieux. Mais quelque chose la chagrine. Elle lui demande,
« Pourquoi m'avez-vous demandé le nom du donneur ?»
Il lui dit, parce que j'avais envie, c'est de le savoir. Je dois vous avouer, c'est que j'ai fait l'amour avec vous parce que j'avais l'impression c'est de le faire avec l'autre aussi. »
Tristement, elle lui dit, « Merci de votre franchise. Et vous avez joui avec lequel ?»
Il lui répond, « Je ne sais pas. Ou plutôt, si je le sais, malheureusement. » Elle soupire et lui dit « Tant pis !» Il lui dit « Je voulais le faire avec une femme, pour voir. Alors avec vous, j'ai pu. » Elle lui répond « À moitié !» Il lui dit « Oui, hélas, malheureusement, votre expérience doit être à refaire. » Elle lui dit « Oui, dommage. » Elle soupire et lui dit « Bon, nous n'allons pas nous battre pour ça. J'ai faim. Je vais vous préparer un petit déjeuner. Vous prenez avec moi ?» Il lui dit « Oui, bien sûr. » Elle se lève, ramasse ses affaires. Je vais à la salle de bain. Après, vous pourrez y aller. C'est la porte qui est à côté de la chambre. Elle sort avec ses vêtements. Il reste dans le lit un peu confus, soupire.
Ça s'est pas trop mal passé.
Il se lève, s'assoit sur le rebord du lit et attend pour aller dans la salle de bain. Une heure plus tard, ils sont tous les deux au salon à prendre le petit déjeuner. C'est elle qui sert. Café, thé, chocolat.
Un café.
Au lait, sucré.
Pas de lait, mais un morceau de sucre. Merci.
Elle le sert. Et se serre. Elle lui dit « Servez-vous, vous avez de la marmelade, d'orange, de la confiture de rose, du miel, du beurre, des fruits. » Il demande « Mais comment faites-vous pour avoir tout ça ?» Elle lui dit « Mes parents ont un domaine en Bourgogne, alors je reçois de temps en temps des colis. » Il lui dit « C'est délicieux, mais moi je n'ai pas cette chance. Monsieur de Haulbeur me donne de temps en temps quelques douceurs. » Elle lui dit « Je peux vous en faire venir, si vous voulez. » Il lui dit, «
Merci, vous êtes très bonne. »
Elle lui dit, « C'est pas parce que notre expérience ne se renouvellera plus qu'il faut que nous quittions fâchés. Restons amis. »
Il lui dit, « Oui, je veux bien. Nous pourrions aller au concert ensemble, au théâtre, et même faire une croisière. »
Elle lui dit, « Une croisière, comme les personnes du troisième âge. »
Il lui répond, « Pas du tout, c'est devenu à la mode. Le France a repris du service, il va même jusqu'en Amérique. »
Elle lui dit, « C'est la mode, les horloges vont en arrière. »
Il lui dit, « Ça risque de nous mener jusqu'au Titanic. »
Elle lui dit, « Jusqu'au France, oui, ça peut aller, mais le naufrage, non, même si c'est dans les bras d'un beau garçon, du plus beau garçon du monde. »
Il lui dit, « Mais je croyais que vous aviez les mêmes goûts que votre cœur. »
« Oui, mais même avec la plus belle fille non plus. »
Ils rient tous les deux et restent bons amis. Avant de se quitter, ils décident de se revoir pour passer une soirée au restaurant et après faire un petit parcours en bateau-mouche la nuit sur le Rhône. Les jours passent. Elle rêve de plus en plus au beau jeune homme et attirée par la tombe qui lui montre en rêve. Ses rêves la hantent de plus en plus. Et un jour, elle décide de prendre le car pour Oullins et d'y aller. Elle va au cimetière, intimidée, fait les rangées des tombes sans savoir où elle va. Et là, elle trouve, sur une pierre, le nom du jeune homme, du rêve. Il y a au pied de la pierre un grand trou vide. Elle se demande pourquoi. Va se renseigner au gardien du cimetière qui a une petite maison devant l'entrée. Un petit homme maigre lui a ouvert, habillé en garde. Elle lui demande :
Je m'excuse de vous déranger, monsieur, mais j'aimerais un renseignement. La tombe de Frédéric Thomas. Pourquoi est-elle vide ?
Le garde lui demande : Vous êtes de la famille ?
Non, monsieur.
Il lui dit : Elle a été profanée et le corps volé, comme beaucoup de tombes en France. On ne sait pas qui fait ce trafic.
Elle lui demande : Vous connaissiez ce Thomas ?
Il lui dit : Non.
Merci, monsieur.
Elle s'en va toute retournée.
N'a-t-on pas profané la tombe pour lui enlever le corps qu'elle a ?
Mais non, c'est impossible. Le corps doit être en état de marche.
Et ce jeune homme a été enterré il y a de cela des mois.
Elle reprend son car. Pensive.
Et une fois chez elle, elle téléphone à la clinique qui lui a fait son opération.
Allô ? Bonjour madame, j'ai pris le service du professeur. C'est pour un rendez-vous. Bien. Bonjour. Madame.
Je vous téléphone, c'est pour avoir un rendez-vous avec le professeur. Je suis Hélène, la personne avec qui vous avez opéré pour mettre un nouveau cœur. Bien, après-demain. Je vous remercie, madame. Et deux jours plus tard, elle est dans le bureau du professeur qui lui demande
« Je vous écoute, vous avez des complications, un ennui de santé ?» Elle lui dit
« Non docteur, tout va bien du côté santé physique, mais je me pose des questions. Voilà, après mon opération, j'ai beaucoup changé. »
« C'est normal. »
« Oui, mais de goût, de caractère. »
« C'est normal aussi. » Après une longue maladie où vous ne pouviez presque rien faire, vous êtes trouvé libre et avez envie de faire des choses nouvelles. »
Elle lui dit, « Il y a sûrement de ça, mais là c'est un peu spécial. J'ai l'impression c'est d'avoir vraiment changé et qu'il y a dans mon corps une deuxième personne et que cette personne m'impose ses goûts. Par exemple, j'aime la bière, faire du sport. Je suis de moins en moins féminine. »
Cela ne se voit pas.
Elle lui dit. Oh, que si. Je m'habille décontractée. Je n'aime plus me maquiller. Je mange des choses impossibles. Et ce qu'il y a de plus grave, c'est que j'ai des désirs, les mêmes désirs qu'un homme, pour les femmes. Chose impensable avant.
Il lui dit. C'était peut-être un désir refoulé. Nous avons tous les deux sexes en nous.
« Oui, mais tout de même,
c'est tout ce que vous avez à me dire ?»«
Non, docteur, il y a plus surprenant. Je rêve très souvent d'un jeune homme qui se nomme Thomas Frédéric. Je rêve de plus en plus à lui et il m'est de plus en plus cher. Un jour, il m'a montré dans son rêve sa tombe et m'a dit où elle était. » Je suis allé au cimetière d'Oulin. J'ai trouvé une tombe du nom de Thomas Frédéric et cette tombe était ouverte. J'ai demandé des explications au gardien du cimetière. Il m'a dit qu'elle avait été profanée et le corps avait disparu. Cela m'a beaucoup choqué et j'aimerais savoir si c'est bien mon donneur et si on a profané la tombe pour prendre son corps.
Le médecin lui dit
« Tout d'abord, je n'ai pas le droit de vous dire qui est votre donneur. Deuxièmement, vous savez très bien que pour moi, il faut que le corps soit encore en état de marche et pour cela, il faut opérer la personne le plus vite possible et pas lorsqu'elle l'est déposée sous terre. »
Elle lui dit « Oui, je le sais, mais comment expliquez-vous ce jeune homme qui m'est mené à cette tombe ?»
Le médecin lui dit « C'est le hasard, un mystère. Peut-être avez-vous entendu à la radio ou autre la profanation de cette tombe et que vous avez amalgamé ce qui vous est arrivé. »
Elle lui dit, « À moins que le corps ait une mémoire et est capable de ressentir. »
Le médecin lui dit, « C'est impossible. Le corps est un muscle. »
Elle lui dit, « Mais il y a des cellules, peut-être. »
Des cellules qui peuvent peut-être. »
Le médecin lui dit, « Non, madame, c'est impossible et pas scientifique. »
Elle lui dit, « Alors comment expliquez-vous mes rêves, mon approche de la tombe et tout ce changement en moi ? Je ne suis plus moi-même. »
Le médecin lui dit, « Trouble émotionnel, vitalité plus forte, désir d'avoir du changement, complètement, de changer complètement de vie. » Voilà. « Je ne peux rien vous dire de plus. »
Elle lui dit, « Bien, monsieur, mais jurez-moi que mon corps n'est pas d'un cadavre profanée.
Le médecin lui dit,
je peux même vous le jurer.
Elle se lève. Merci, docteur.
Au revoir, madame. Un conseil. Laissez-vous vivre. Ne pensez à rien. Tous ces changements de votre vie vous s'estomper. Vous n'êtes pas la seule à avoir des troubles de ce genre après une telle opération.
Les jours passent. Elle essaye de se détendre, de faire du sport et lire. Un après-midi, chez elle, on a sonné chez elle.
Elle ouvre.
C'est un jeune homme. Bonjour madame. Je suis venu vous voir parce que j'ai appris que vous aviez eu une opération à cœur ouvert et j'aimerais parler avec vous un moment. Je suis étudiant en médecine. Elle trouve le jeune homme charmant, avec un très beau visage et de magnifiques yeux bleus. Entrez, monsieur.
Le jeune homme entre, elle ferme la porte.
Il a une mallette à la main.
Elle lui dit, nous allons au salon. Et elle le conduit. Entrez. Asseyez-vous.
Elle lui demande, vous désirez boire quelque chose? Il lui dit, un jus de tomate. Elle sourit et lui dit,
c'est une boisson pour enfants sages.
Il lui dit, non, l'auteur manque d'imagination.
Elle lui demande, comment?
Il lui dit, rien, une simple plaisanterie.
Elle va chercher des boissons et tout ce qu'il faut. Elle les pose sur la table basse qui est à côté du jeune homme. Et elle s'assoit.
Servez-vous. Merci.
Je sers aussi.
Une fois qu'ils aient bu une gorgée, elle lui demande « Que désirez-vous savoir ?» Il lui dit « J'aimerais savoir si vous vous sentez bien avec votre nouveau corps. » Elle lui répond « Physiquement, je n'ai aucun problème. Je prends bien mes médicaments, pas de rejet, ni de souffrance, rien. Mais je sens un changement dans mon caractère et je me demande si ce n'est pas dû à mon nouveau corps. »
Le jeune homme lui dit,
« Comment ? Parce que mon donneur était un jeune homme et j'ai l'impression c'est de me définiser. »
Il lui dit,
« Cela est très intéressant. Et ça vous gêne ? » Elle lui dit, « Oui, ça me gêne même beaucoup. Mais que faire ?»
Il lui dit, « Changer de corps ?»
Elle lui dit, « Non, merci, une fois suffit. »
Il lui dit, « Je vous assure, c'est très simple. Ça se pratique très bien. »
Elle lui dit, « Je le sais, j'y suis déjà passé. »
Il lui dit, « Oui, mais moi j'ai une nouvelle méthode. Je l'ai déjà expérimentée sur des patients. J'ai même opéré deux personnes à la fois.
Je suis, madame, le plus grand chirurgien des transplantations du corps du monde, elle lui dit en riant. Vous n'allez tout de même pas proposer une opération du corps comme on propose un aspirateur. Il lui dit, et pourquoi pas? Comment? Il lui dit, j'ai tout ce qu'il faut ici. Il lui montre sa mallette. Mais j'ai fait entrer un fou. Elle se lève et lui dit, j'ai besoin de rien, monsieur. Vous pouvez partir. Il lui dit, mais non. Vous m'avez fait entrer, ce n'est pas pour rien. J'ai pas perdu mon temps pour rien. Vous allez, vous, on va vous opérer du corps, madame. Nous allons vous opérer du corps. Il ouvre sa mallette. Elle se dirige vers la sortie. Mais j'ai dit, sortez, monsieur, ou j'appelle la police. Il pose sa mallette à terre. Va vers elle.